Bonjour tout le monde, ça va bien? Eh bien, pour ceux qui s'attendaient de voir Normand Joseph, malheureusement, vous avez un gars semi-chauve et pas mal plus petit. Non, ça ne veut rien dire. Dans les petits pots, les bons onguents, on dit.
Dans les grands pots aussi.
Les grands pots aussi. Normand est à un de nos pasteurs, Normand, qui... prêche régulièrement ici. Il est à Fermont ce matin. Il est allé visiter sa fille, Katia, puis son gendre Mathieu. Il est avec la neige, le froid, mais avec ses petits-enfants, puis il est vraiment heureux quand même d'être là-bas. Il nous disait que c'est 4 heures d'avion se rendre là-bas. Le même temps, supposément, que ça prend pour aller en Floride en avion. Mais on s'entend que c'est pas tout à fait la même destination à ce temps-ci de l'année. J'ai le privilège de poursuivre avec vous la série que Normand avait débutée avec deux messages sur le Saint-Esprit. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est continuer dans la même ligne de pensée et même dans le même texte ou contexte que Normand avait commencé dans les deux dernières semaines. Juste pour que vous puissiez vous rappeler un peu qu'est-ce qu'on avait vu sur le Saint-Esprit avec Normand dans les dernières semaines. Donc, les deux dernières semaines, Normand nous avait parlé de la personne du Saint-Esprit. Qui il est au juste, le Saint-Esprit? Et dans la première semaine, on avait vu ensemble que c'était l'Esprit qui console. C'est pour ça qu'il est appelé dans l'Évangile de Jean le Consolateur. Paraclète, en français, c'est un mot qui a été inventé parce que ça vient d'un mot grec qui ressemble à ça. Le Consolateur, celui qui aide, celui qui vient pour consoler, pour aider. Même dans certains cas, on peut dire le défenseur. Et Normand nous avait mentionné quelques différentes choses sur le Saint-Esprit. La première, c'est que, mais il nous avait mentionné au moins que le Saint-Esprit était une personne. Ce n'est pas une force vague ou une énergie quelconque, mais c'est vraiment une personne qui vit, qui a des sentiments, qui parle, qui dit des choses. Évidemment, ce n'est pas une personne qui a un corps, c'est un esprit. Mais il nous avait dit aussi que cette personne-là a les caractéristiques divines parce que c'est Dieu, le Saint-Esprit, est la troisième personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui forment un seul Dieu, mais en trois personnes. On avait vu donc l'importance, et Normand nous avait exhorté à aimer le Seigneur en gardant sa parole parce que l'Esprit était avec nous. Jésus a promis que le Père était pour envoyer l'Esprit à ses disciples un jour. Et c'est bien ce qui s'est passé à la Pentecôte lorsque l'Esprit est venu et a fait sa demeure chez les disciples. Dans le deuxième message, encore une fois sur qui est l'Esprit, Normand nous avait parlé de l'Esprit de vérité, celui qui dit la vérité, celui qui annonce la vérité, celui qui révèle la vérité sur Dieu. Il nous avait parlé aussi de l'Esprit de vérité qui nous accompagne. Dans des temps difficiles, des temps de persécution, d'oppression, des temps où Jésus disait aux disciples, « Un jour, vous allez être haïs par le monde. » Soyez pas surpris de ça, parce que le monde m'a haï en premier, a eu de la haine pour moi, et ils vont en avoir pour vous aussi. Mais consolez-vous, parce que vous allez avoir l'Esprit de vérité avec vous et en vous, qui va même rendre témoignage de moi, lorsque vous aussi, vous allez rendre témoignage de moi. Donc, Normand nous avait encouragé à être ferme, dans notre proclamation de la parole de Dieu, sachant que le Saint-Esprit va au-devant de nous. Il touche les cœurs des gens à qui on s'adresse. Il travaille dans le cœur des gens de manière surnaturelle, de manière spirituelle. Et il prépare les cœurs pour que lorsqu'on vient témoigner de la personne de Jésus, avec la parole de Dieu, les gens ont déjà été, leur cœur a déjà été travaillé puis touché par le Saint-Esprit. C'est ce qui fait que des non-croyants dans le cœur desquels le Saint-Esprit a fait une œuvre, peuvent venir à se convertir. C'est ce qui fait que chacun d'entre nous, on a pu venir au Seigneur, recevoir le Seigneur Jésus, parce qu'un jour, le Saint-Esprit a témoigné à notre cœur. Maintenant, dans ce sermon-ci, on va laisser de côté la question « Qui est l'Esprit? » Puis on va chercher à comprendre davantage « Qu'est-ce que fait l'Esprit? » « Qu'est-ce que fait l'Esprit de Dieu? » Puis c'est une question quand même légitime. C'est beau de savoir c'est qui, mais pourquoi on devrait savoir qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que juste de savoir qu'il est là est suffisant? Est-ce que c'est utile quand même de savoir qu'est-ce qui fait l'Esprit, ce qu'il est en train de faire, comment il le fait. C'est un peu les questions qu'on va regarder ce matin. Puis je vous dirais que, en en croire les paroles de Jésus, oui, c'est important de savoir non seulement qui est l'Esprit de Dieu, mais aussi ce qu'il fait, parce que Jésus prend toute une section d'un de ses discours d'adieu pour expliquer à ses disciples la réponse à cette question-là. Qu'est-ce que fait l'Esprit de Dieu? Et ensemble, on va voir, je vous donne déjà le punch à l'avance. Norman nous dit tout le temps que ce n'est pas une bonne idée de vous donner le punch comme ça à l'avance, parce qu'après ça, vous le savez déjà, puis vous n'avez plus comme l'effet de suspense, l'effet de jusqu'à la fin pour savoir exactement toute la réponse, mais ça rend ça plus clair aussi. On va voir que l'Esprit de Dieu fait trois choses, en fait. L'Esprit de Dieu convainc, l'Esprit de Dieu conduit et l'Esprit de Dieu glorifie. J'aurais bien aimé ça que ça soit trois mots en C. J'aurais pu avoir de la smart comme les prédicateurs là, qui font tous leurs points comme avec des mots qui commencent par la même lettre. Là. Malheureusement, moi, j'ai juste trouvé convainc, conduit et glorifie. En fait, c'est les mots que j'ai trouvés dans le texte de la Bible. Fait que j'ai décidé de prendre directement ceux-là. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est que l'Esprit de Dieu non seulement convainc et conduit, mais il veut qu'on l'accompagne dans la glorification du Seigneur. C'est son objectif pour nous et pour nos vies, c'est qu'on puisse nous aussi glorifier le Seigneur. Et on va voir ensemble comment on peut faire ça, en accompagnant ou en se joignant à ce que l'Esprit de Dieu fait. Mais avant de s'en aller dans le texte, ça vaut la peine, il me semble, juste de vous mettre un petit peu en contexte. On est dans l'Évangile de Jean, c'est là que Normand avait commencé sa série. Puis, ce qui arrive dans l'Évangile de Jean, c'est que pendant toute une partie de l'Évangile, Jésus a un ministère public. Il y a des débats, des conversations avec des foules à Jérusalem, avec des gens à Cana ou à Capernaum. Puis c'est des discours qu'il donne, des enseignements aux Juifs, des fois même des débats assez intenses, au point où, à plusieurs reprises, les Juifs veulent prendre des pierres pour lapider Jésus, à tel point que ça devient intense, le débat et la conversation. Mais à partir du chapitre 13 de l'Évangile de Jean, là, le focus se tourne dans l'intimité de Jésus et ses disciples, ses 12 apôtres. Et on va voir ensemble, à partir du chapitre 13 jusqu'au verset 17, que Jésus va commencer une série de discours d'adieu. Il sait que son temps est venu pour aller sur la croix, mourir pour le péché des hommes et ressusciter. En fait, au début du chapitre 13, le premier verset nous dit exactement où on est dans l'histoire, dans la chronologie de l'histoire de Jésus. Puis on voit chez Jean, pour ceux qui ne sont pas habitués, l'Évangile de Jean, c'est dans le Nouveau Testament, le quatrième livre du Nouveau Testament. Vous avez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et au chapitre 13, verset 1, on lit « Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que les disciples, le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge, dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. » Et donc, le début du chapitre 13 nous place dans l'histoire de Jésus la journée avant la Pâque, le jeudi soir, à l'heure du souper, à peu près. Pendant la nuit, Jésus va... En fait, toute la soirée et la nuit, Jésus va avoir des discussions. On appelle ça les discours d'adieu de Jésus envers ses disciples. C'est comme ses dernières paroles, parce qu'il sait qu'il va s'en aller. Non seulement il sait qu'il va mourir et ressusciter, mais il sait que, pas longtemps après ça, il va quitter la terre pour aller au ciel, rejoindre son Père. Et il va donner des instructions finales à ses disciples. En partie, entre autres, c'est là qu'on lit, là, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Il va donner une série d'autres instructions du chapitre 13 au chapitre 16 à ses disciples. Mais il y a une chose c'est que Jésus va répéter souvent. Et c'est quelque chose qui va rendre le discours et l'atmosphère, il faut se placer ici dans le contexte. C'est quelque chose que Jésus va dire qui va rendre l'atmosphère très lourde pour ses disciples. C'est les dernières paroles de Jésus. Ils sont dans l'intimité de la chambre haute, comme on appelle, comme on voit dans d'autres évangiles. Il n'y a personne d'autre vraiment là, peut-être quelques autres personnes qui les servent. Puis Jésus va parler à ses disciples d'une manière qu'il n'a jamais parlé avant. Il va dire à ses disciples des choses qu'il n'a jamais dit avant aux foules. Il faut comprendre ici ce qui est en train de se passer. Mais voici un des thèmes récurrents dans le discours d'adieu de Jésus qu'on lit au chapitre 13, au verset 3, qu'on a déjà lu, mais qu'on va relire ensemble, si vous voulez bien. Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. On voit ici, Jésus était très conscient de qu'est-ce qui se passait. Il était très conscient qu'il venait de Dieu, évidemment, mais qu'il s'en allait à Dieu et que c'était de manière imminente. Il savait que c'était dans les prochaines heures, que tout était pour commencer pour lui au niveau de ses souffrances, son sacrifice, sa résurrection et le reste. Et donc Jésus décide à ce point-ci de prouver son amour d'une manière spéciale en lavant les pieds de ses disciples, incluant Judas qui l'a trahi, quand même surprenant. Puis ça dit justement dans le verset 1, « Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. » C'est comme ça qu'on qualifie le geste de Jésus de prendre le rôle d'un serviteur puis de laver leurs pieds. Il les aima jusqu'au bout. En même temps, c'était pour leur montrer un exemple. Mais on voit qu'à partir du milieu du chapitre 13, en fait, le verset 21, un petit peu plus tard même, 31, pardon, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. » Et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. À partir du verset 31, où Judas, le traître, va quitter les disciples et Jésus pour aller faire ses manigances pour trahir Jésus en réalité, là, Jésus va commencer une série de discours puis d'exhortations à ses disciples. Il attendait, en fait, probablement que Judas s'en aille pour donner ses dernières instructions-là à ses vrais disciples, parce qu'il savait que Judas était un traître. Et donc, à partir du chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, Jésus va constamment répéter, souvenez-vous, au début du chapitre 13, il savait qu'il venait de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Et un des refrains qui revient, c'est que Jésus dit à ses disciples qu'il va s'en aller et qu'ils ne le verront plus. Et vous vous souvenez, au début du chapitre 14, peut-être, lorsqu'il dit qu'il s'en va leur préparer une place, et qu'il va revenir les chercher pour que là où lui, il est, Jésus, ses disciples puissent être aussi où il est. Donc, et même Pierre va lui poser la question, « Mais où vas-tu? » Et Thomas va dire, « On ne sait pas le chemin. Où est-ce que tu t'en vas? » Puis c'est là que Jésus, en Jean 14, 6, va dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Cette question-là revient constamment dans ces chapitres-là. L'idée que Jésus s'en va, l'idée que Jésus va quitter bientôt, que les disciples vont être privés de sa présence. Puis on peut comprendre pourquoi, au début du chapitre 16, les disciples ont le cœur gros. Et en fait, juste à la fin du chapitre 15, on l'a vu avec Norman la semaine passée, Jésus vient d'annoncer qu'ils vont être persécutés, haïs par le monde, maltraités, tués. Et au début du chapitre 16, on lit, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. » Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous les ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement, parce que j'étais encore avec vous. Maintenant, au verset 5, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande « Où vas-tu? » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. On peut comprendre pourquoi la tristesse a rempli le cœur des disciples. Eux autres peut-être s'imaginaient passer toute leur vie avec Jésus, de pouvoir demeurer avec Jésus alors que son royaume peut-être aurait été instauré sur terre, puis de faire partie de ce royaume-là, malgré que Jésus leur avait dit que ce n'était pas le cas, que ce n'était pas pour arriver comme ça. Les disciples ont le cœur gros. Avec raison, en quelque part, ils ont passé 3 ans de leur vie à suivre Jésus partout où ils circulaient. Et maintenant, la seule chose à laquelle ils peuvent penser, c'est le fait qu'ils vont perdre Jésus, qu'ils vont être laissés seuls. Et ils ont le cœur gros. Un petit peu plus tôt dans les chapitres, dans les discours d'adieu, Les disciples veulent savoir, où vas-tu, Pierre? C'est plus la question, pourquoi tu t'en vas? On ne comprend pas. Ici, il ne se soucie même plus de où est-ce que Jésus s'en va, qu'est-ce qu'il s'en va faire, mais ils sont juste tristes parce qu'ils savent que ça va être difficile, il va y avoir de la persécution, Jésus ne sera pas là pour les accompagner ou les protéger, comme ça a été le cas pendant les 3 années qui ont passé avec lui. Puis c'est à ce point ici que Jésus, à partir du verset 5, va, en réponse à leur tristesse, expliquer aux disciples, voici le consolateur dont je vous ai déjà parlé au chapitre 15, au chapitre 14. Évidemment, les autres n'avaient pas de chapitre, fait qu'il n'y a pas dit ça de même, là. Mais plutôt dans mon discours, le consolateur dont je vous ai parlé, voici qu'est-ce qu'il va faire. Puis c'est en réponse à votre tristesse. Soyez pas tristes, les gars. En quelque part, je pense que Jésus aurait pu comprenait pourquoi ils étaient tristes. N'importe qui serait triste d'être dans leur situation. Mais Jésus leur dit au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc, vous voyez, Jésus, en réponse à leur tristesse, leur grande tristesse, leur désarroi, Jésus leur dit, c'est mieux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit, mais si je m'en vais, je vais vous l'envoyer. Donc, si vous voulez bien, on va lire ici le passage qui nous raconte, qui nous résume dans les paroles de Jésus, qu'est-ce que l'œuvre de l'Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Parce que Jésus donne à ses disciples une explication de ce que le Saint-Esprit fait, l'utilité, c'est pour que les disciples ne puissent pas demeurer dans la tristesse. Chacun d'entre nous, ça peut nous arriver, comme les disciples, de vivre des moments difficiles. Mais de savoir que le Saint-Esprit de Dieu est là et qu'il agit en nous et qu'il agit à travers nous, ça peut faire toute la différence dans la manière dont on vit notre vie chrétienne. Et c'est ça ici que Jésus essaie de faire avec les disciples. Voyez comment le Saint-Esprit va faire la différence dans vos vies, même si je ne suis plus là. C'est plus avantageux, en fait, que le Saint-Esprit demeure, que le Saint-Esprit vous soit envoyé, que moi je demeure avec vous. Donc au verset 7, il dit, « Cependant, je vous le dis, la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers nous, vers vous. » Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. On va continuer la lecture jusqu'au verset 15 parce que c'est vraiment le passage qui nous intéresse ce matin, les versets 5 à 15. Jusqu'à maintenant, là, comme j'ai dit au premier service, c'était juste l'introduction. Là. Fait qu'au verset 8, on lit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Voici donc ce que le Saint-Esprit va faire. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père, et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Maintenant, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, si on revient au début de cette portion du discours de Jésus, on comprend maintenant que le Saint-Esprit vient dans un sens pour consoler la tristesse des disciples, c'est certain, mais aussi pour agir à travers eux. Et c'est là la raison pourquoi Jésus dit qu'il est avantageux que le Saint-Esprit vienne et que Jésus ne demeure pas. Pourquoi serait-il plus avantageux, c'est ma question, pour les disciples d'avoir le Consolateur au lieu de pouvoir rester avec Jésus sur la terre sans jamais vraiment avoir le Consolateur? Pourquoi ce serait plus avantageux, en fait? C'est une bonne question à se poser. Ce que Jésus dit, c'est que, dans un sens, avec tout ce qui vient dans la suite, tout ce que le Saint-Esprit va faire, comme on a dit tantôt, il va convaincre, il va conduire, il va glorifier Jésus. La raison pourquoi c'est plus avantageux pour les disciples de recevoir le Saint-Esprit, c'est parce que le Consolateur, dans un sens, va amener le ministère de Jésus ou la mission de Jésus à un autre niveau à travers les disciples, d'une manière que Jésus, en restant sur terre, n'aurait pas pu amener. La vision de Jésus, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et Jésus dit, je dois m'en aller pour que le Saint-Esprit vous soit envoyé, parce que je sais que quand le Saint-Esprit va venir, il va, dans un sens, amener à un autre niveau supérieur de progrès et d'expansion le ministère de la bonne nouvelle, le ministère de l'Évangile, de répandre la bonne nouvelle autour de nous. Un érudit du Nouveau Testament, M. Don Carson, dit que le Consolateur, c'est ses mots, amplifiera le ministère de Jésus d'une manière que les disciples ne pouvaient pas prévoir. Comme un amplificateur qui est juste devant moi prend un signal audio assez faible puis le fait sortir pour que tout le monde puisse l'entendre dans la salle. De la même manière, le Saint-Esprit va agir, le Consolateur va agir à travers les disciples et dans les disciples et sur le monde afin que le ministère de Jésus, que sa bonne nouvelle soit répandue et proclamée encore plus loin et encore de manière encore plus grande que ça aurait pu être le cas si Jésus avait resté sur terre et qu'il n'aurait pas envoyé le Saint-Esprit. C'est donc pour cela, dans un sens, que Jésus dit, c'est avantageux en fait pour vous. Parce que vous avez une mission à accomplir, c'est faire de toutes les nations des disciples. Mais vous allez avoir besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir cette mission-là. Comme Acte 1:8 nous le dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, voici pourquoi c'est plus avantageux que le Saint-Esprit demeure, mais quelle est donc la manière que le Consolateur utilise pour amplifier, si on veut, le ministère de Jésus à travers les disciples? Comment ça se fait ça? Eh bien, ça se fait par de deux manières, en réalité. Ça se fait par la conviction puis par la conduite. Le Saint-Esprit va convaincre le monde de sa culpabilité, premièrement, et deuxièmement, il va conduire les disciples dans toute la vérité. C'est ce qu'on voit dans le texte qui suit à partir du verset 8. Quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Donc, la première chose qu'il faut dire ici, si on veut comprendre ce texte-là, c'est de dire que c'est un passage assez difficile à interpréter, pour deux raisons. On n'examinera pas ces deux raisons-là en détail, je veux juste vous les mentionner. Mais les versets 8 à 11, l'idée que le Saint-Esprit va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, puis les versets 9, 10, 11 qui donnent davantage d'explications sur cela, c'est assez compliqué à comprendre. Les commentateurs, les étudiants de la parole de Dieu, les plus sérieux, ne s'entendent pas sur le sens de certains mots dans ce passage-là. Par exemple, le verbe « convaincre ». Pour certains, le verbe « convaincre », c'est vraiment l'idée d'exposer une erreur. Par exemple, de convaincre une personne qu'elle a tort de penser d'une certaine manière. Donc, l'idée, ce serait que le Saint-Esprit va convaincre le monde qu'ils ont tort sur leurs idées, sur le péché, la justice et le jugement. Vous avez des idées croches, pas correctes. Vous ne pensez pas la vérité sur le péché, la justice et le jugement. Puis le rôle du Saint-Esprit, c'est de vous convaincre, vous montrer que vous avez tort, d'exposer votre fausseté ou votre mensonge dans un sens. Pour d'autres, le verbe « convaincre » a plus le sens de convaincre ou de prouver que quelqu'un est coupable. Donc, c'est l'idée de convaincre la culpabilité de la personne, de prouver que la personne est coupable et de lui faire éprouver un peu la honte qui va l'amener à la repentance. Pas juste comme la honte pour la descendre, mais la convaincre de culpabilité pour l'amener à la repentance. Un exemple de cela, c'est Jean, chapitre 8, 46, où Jésus, en parlant aux Juifs, dit « Lequel d'entre vous me convaincra de péché? » Lequel d'entre vous, dans un sens, me convaincra que je suis coupable d'un péché? Ce n'est pas l'idée « lequel d'entre vous me convaincra que j'ai des idées mauvaises sur le péché, que mes idées sur le péché ne sont pas des bonnes idées, que j'ai tort sur mes idées sur le péché. » C'est plus « lequel d'entre vous va réussir à voir que je suis coupable d'un péché? » Et donc, certains vont dire qu'il faut plutôt le prendre dans le sens de prouver la culpabilité, d'autres dans le sens de convaincre que la personne n'a pas raison ou qu'elle a tort ou qu'elle fait erreur. C'est difficile à dire parce que même les érudits pour qui j'ai du grand respect, ont des positions différentes à ce sujet-là. Donc, ça rend le texte difficile à interpréter. La deuxième raison pourquoi c'est difficile à interpréter, c'est parce que le mot « justice » en particulier et le mot « jugement », le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Le mot « péché » est assez facile à comprendre. Mais le mot « justice » et le mot « jugement » sont plus difficiles à trouver exactement le sens de ces mots-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, le mot « justice », dans le grec, il apparaît seulement à cet endroit-là dans l'Évangile de Jean. Il apparaît à aucun autre endroit. Fait qu'on ne peut pas aller dans un autre texte de l'Évangile de Jean et dire okay, « qu'est-ce que ce mot-là veut dire dans tel autre contexte, ou dans telle autre histoire, ou dans tel autre contexte? » On ne peut pas, parce qu'il apparaît juste ici. Puis là, s'inspirer de qu'est-ce que ce mot-là voudrait dire des autres histoires, des autres contextes, pour essayer de trouver qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte-ci, c'est impossible. Et le mot « justice » peut vouloir dire deux choses, on va les voir bientôt, mais on ne s'entend pas sur le sens de ce mot-là, puis on va voir pourquoi dans quelques minutes. La même chose avec le mot « jugement », une difficulté un petit peu moins grande, mais ici aussi, le mot « jugement » pourrait vouloir dire deux choses assez différentes. Puis les deux sens du mot « jugement », comme les deux sens du mot « justice », collent pas mal au texte. C'est-à-dire qu'on pourrait les comprendre de cette manière-là, de deux manières différentes, mais les deux manières, ça fait du sens. Ça pourrait être très logique que c'est ça que ça veut dire. Donc, ça fait que c'est un texte qui est difficile. Je suis vraiment reconnaissant à Norma de m'avoir laissé ce message-là ce matin. C'est un des textes les plus difficiles dans cette section-là de l'Évangile de Jean. Mais je sais qu'il ne faisait pas par exprès, il n'a pas plané son voyage en conséquence. Mais je me suis pas mal cassé la tête cette semaine pour essayer de trouver exactement le sens de ces expressions-là. Mais la première chose qu'il faut faire avant de se lancer dans la tentative de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, que le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement, c'est de comprendre exactement qu'est-ce que Jean veut dire par « le monde ». Le Saint-Esprit convaincra le monde. Ici, il ne faut pas comprendre le monde dans le sens de la création de Dieu, le monde créé par Dieu, l'univers, les choses qui nous entourent, les oiseaux, puis toutes ces choses-là, incluant nous-mêmes. Ce n'est pas juste une référence au monde que Dieu a créé. En fait, c'est un petit peu plus négatif que ça. Dans l'Évangile de Jean, ce n'est pas la première fois que le mot « monde » est utilisé. Par exemple, dans Jean chapitre 1, la lumière est venue dans le monde, la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. OK, moi ouais, je pense que c'est les siens, mais ce n'est pas le monde. Ah non, pardon, c'est dans Jean chapitre 12, verset 31, où Jésus dit que le monde est déjà jugé et que le prince de ce monde sera jugé. Donc Jésus parle du jugement du monde. Le monde, dans l'Évangile de Jean, à plusieurs des endroits, incluant le chapitre 16, fait plutôt référence, plus qu'à la création, la terre qui existe, à des personnes qui sont en rébellion contre Dieu, qui sont en opposition à Dieu, qui rejettent Jésus et qui s'opposent à Jésus et à Dieu. C'est des gens qui refusent de croire que Jésus est le Christ. C'est des gens qui sont incrédules. Et justement, le texte, un petit peu plus loin, nous laisse entrevoir cela. Parce que au chapitre 16, verset 9, on lit, à partir du verset 8, on va commencer au verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, au verset 9, parce qu'il ne croit pas en moi. Il, au pluriel, il ne croit pas en moi. Les gens dans le monde ne croient pas en Jésus. » Et c'est donc la première raison pour laquelle le Saint-Esprit doit convaincre le monde de péché. Parce que les gens dans le monde s'opposent à Jésus, rejettent Jésus, ne croient pas en Jésus et s'opposent à Dieu. Et donc ici, le monde, c'est vraiment, c'est dans ce sens plutôt négatif de personnes qui sont en opposition. On vient de voir justement la première chose à laquelle le Saint-Esprit va convaincre le monde, c'est premièrement le péché. C'est assez simple en fait, celle-là c'est le plus simple. Le péché qui revient le plus souvent dans l'Évangile de Jean, sur lequel l'apôtre Jean va constamment taper dans son histoire, le clou sur lequel il va constamment taper, la vérité qu'il veut toujours ramener, c'est le fait que les gens ont besoin de croire en Jésus. Puis Jésus, à maintes reprises, va condamner ses auditeurs parce qu'ils refusent de croire, malgré les miracles qu'il fait, malgré le témoignage qu'il donne, malgré le témoignage que ses œuvres ont, le témoignage de l'Esprit, et ainsi de suite, ils refusent constamment de croire. C'est le péché de l'incrédulité. Et même l'apôtre Jean, dans le chapitre 20, verset 31, va dire que l'objectif de son évangile, la raison pourquoi il a écrit ce livre-là, le récit de l'histoire de Jésus de cette manière-là, c'est afin que les gens puissent croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, il puisse avoir la vie en son nom. Fait que le but de l'Évangile de Jean, c'est ça. Vous lisez l'Évangile de Jean, là, un des buts principaux, en fin de compte, avoué dans Jean 20-31, c'est qu'on puisse croire que Jésus est le Fils de Dieu. Puis en croyant en lui, avoir la vie en son nom. Fait qu'ici, la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est convaincre le monde de péché. En particulier le péché d'incrédulité. Deuxièmement, au verset 8, on dit qu'il convaincra le monde de justice aussi. Au verset 8 et au verset 10, on nous donne davantage d'explications. On nous dit de justice, au verset 10, le Saint-Esprit convaincra le monde de justice parce que Jésus s'en va au Père et que les disciples ne le verront plus. C'est un peu étrange. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Il va convaincre le monde de justice parce que lui-même, il s'en va au Père puis que les disciples ne le verront plus. C'est dur de faire le lien entre pourquoi le Saint-Esprit fait cette conviction-là de justice, puis ça en lien avec le fait que Jésus s'en va. Il y a quelques options, en fait, qui sont possibles. Puis c'est ici qu'on va examiner au moins deux des options que j'ai retenues, qui étaient pour moi les plus plausibles ou les plus sérieuses, parce qu'il y en avait, en fait, comme 6 options. Mais dans les plus sérieuses, la première, ça serait la suivante. Quand Jésus dit que le Saint-Esprit va convaincre le monde de justice, ça serait l'idée que le monde non-croyants, c'est-à-dire ceux qui sont en opposition à Dieu, croient pouvoir être favorables à Dieu ou acceptés par Dieu avec leur propre justice. Ils croient que par leurs propres œuvres, par leur propre justice, ils vont pouvoir être acceptés par Dieu, obtenir sa faveur, être déclarés justes par Dieu à cause de ce qu'ils ont fait eux-mêmes, à cause de toutes les bonnes œuvres qu'ils ont opérées. En fait, dans l'Évangile de Jean, plusieurs Juifs pensaient qu'ils étaient corrects avec Dieu à cause de leurs bonnes œuvres, de leur religiosité. Entre autres, il y a des Juifs qui pensaient, parce qu'ils étaient des enfants d'Abraham, que tout était correct pour eux autres, qu'ils n'étaient pas sous la condamnation de Dieu. Nous, on est des fils d'Abraham. Mais Jésus leur a montré à eux, puis à plusieurs autres Juifs ou personnes comme ça dans l'Évangile, qu'ils avaient tort de penser ça. Ils avaient tort de penser que, juste parce que ils font des bonnes œuvres, ils peuvent être acceptés par Dieu. Ils avaient tort de compter sur leur propre justice humaine afin d'obtenir la faveur de Dieu. Et Jésus, donc, s'en va à son Père. La raison pourquoi le Saint-Esprit doit convaincre le monde que la justice du monde n'est pas satisfaisante ou suffisante, c'est parce que Jésus va à son Père et il ne sera plus là lui-même pour montrer au monde que la justice du monde ne fait pas l'affaire. Un des rôles de Jésus, ou une des choses que Jésus a faites dans l'Évangile, c'était constamment montrer aux gens que leurs prétentions n'étaient nulle part, qu'ils ne pouvaient pas prétendre aller avoir la vie éternelle par leurs propres œuvres, par leur propre justice. Jésus a contredit plusieurs personnes pendant son ministère terrestre. Maintenant, Jésus s'en va, il ne pourra plus continuer ce ministère-là, il ne pourra plus convaincre les gens de leur culpabilité, c'est-à-dire que leur justice ne fait pas l'affaire, qu'ils sont coupables d'avoir pensé que leur justice n'était pas correcte. Donc, le Saint-Esprit, maintenant, va continuer ce travail-là. Le Saint-Esprit va convaincre les gens de cela maintenant. Le monde non-croyant que leur justice n'est pas suffisante pour être déclaré juste par Dieu. Ça prend plutôt une autre justice. Et l'autre justice, bien entendu, c'est celle du Seigneur Jésus. C'est celle que le Seigneur Jésus offre parce qu'il a pris nos péchés à la croix et qu'il fait le grand échange en nous donnant sa justice, en nous imputant sa justice. Ça, c'est la première option avec laquelle on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit convaincra le monde de justice. C'est-à-dire que la justice en question, c'est la justice des personnes méchantes, des personnes qui sont contre Dieu. Une propre justice qu'on essaye de faire valoir à Dieu. Le Saint-Esprit va les convaincre de culpabilité que ils ne peuvent pas être justifiés de cette manière-là. Ils ne peuvent pas être déclarés justes par Dieu de cette manière-là. Maintenant, il y a une deuxième manière qu'on peut comprendre le mot « justice » dans ce texte-là, qui fait aussi du sens. Ce serait l'idée que le Saint-Esprit convaincra le monde que Jésus était juste lui-même et innocent. Ça ne serait pas la justice du monde méchant, mais ça serait la justice de Jésus lui-même. Ça serait l'idée, voici maintenant le Saint-Esprit, vous Vous avez crucifié Jésus, vous l'avez rejeté parce que vous avez dit qu'il était un blasphémateur, qu'il était un traître, qu'il était quelqu'un qui se prenait pour un autre. Mais en réalité, la vérité sur Jésus, c'est qu'il était juste, il était innocent. Et la preuve, c'est qu'il est ressuscité d'entre les morts et que maintenant, il s'en va à son Père. Maintenant, Jésus s'en va à son Père. Et donc, le Père l'a envoyé pour que Jésus accomplisse la volonté du Père. Jésus a accompli la volonté du Père sur la terre. Il a même donné sa vie pour ses brebis. Et maintenant, tout est accompli. Comme il l'a dit à la croix, il est ressuscité des morts. Et le Père, en le ressuscitant, approuve que Jésus a vécu une vie parfaite, sans péché, qu'il était juste. Et donc maintenant, le fait que Jésus s'en retourne au Père déclare dans un sens la justice de Christ. Fait que vous voyez ici, l'idée, ça serait que le Saint-Esprit convainc le monde de justice, mais pas la justice du monde méchant, mais le fait que Jésus est juste, la justice de Jésus ou la justice de Dieu dans un sens. Eux, le monde, se sont trompés sur la justice de Dieu. Mais Jésus aurait... le fait de retourner dans son Père déclare ou démontre que finalement, il était vraiment juste et innocent. Donc, moi, ma question, c'est est-ce qu'il faut vraiment choisir entre les deux dans un sens? Parce que, est-ce qu'en quelque part, les deux ne sont pas vrais? Est-ce que c'est partout dans les Écritures, ailleurs, on lit que la justice humaine de la loi, les œuvres qu'on fait, ne peuvent pas nous donner la faveur de Dieu? C'est vrai. Et donc, le Saint-Esprit, en quelque part, si c'est de ça qu'il nous convainc, si le Saint-Esprit convainc les non-croyants que leur justice n'est pas suffisante, c'est très vrai. Donc, c'est possible. En même temps, c'est vrai que Jésus était innocent, qu'il était le seul juste. Et donc, si le Saint-Esprit convainc les gens que Jésus est, c'est de cette justice-là qu'on parle, la justice de Jésus, ça aussi, en quelque part, c'est vrai. Et donc, ma question, c'est pourquoi doit-on choisir? Les deux semblent bons, en quelque part. Et les deux collent au texte pour plusieurs raisons. La troisième chose que le Saint-Esprit va convaincre le monde, on a vu déjà que le Saint-Esprit convaincra le monde donc de péché, deuxièmement de justice, et troisièmement de jugement. Il convaincra le monde de jugement, au verset 8 et au verset 11, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Et de la même manière que pour la justice, on peut comprendre l'idée du jugement de deux manières différentes. La première, ce serait l'idée que le monde, la plus naturelle dans un sens, ce serait l'idée que le monde va être jugé par Dieu. Le monde va être jugé par Dieu. Ceux qui, encore une fois, quand je dis le monde, je parle de ceux qui s'opposent et qui rejettent Jésus-Christ. Et Jésus sera en train de dire, le Saint-Esprit va convaincre les non-croyants que le jugement s'en vient, que s'il continue à persévérer, à refuser Jésus-Christ, à refuser de croire en lui et penser qu'ils peuvent encore être justes aux yeux de Dieu selon leurs propres œuvres, le jugement de Dieu s'en vient. Et on voit comment ça colle très bien au texte puis au sens qu'on peut donner à ce texte-là. Et ça serait d'une manière la plus naturelle. Même Jean chapitre 12, verset 31, que j'ai déjà cité, nous dit quelque chose de très semblable. Verset 31 de Jean chapitre 12, on lit « Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Donc, vous voyez, ici, on a l'expression « prince de ce monde » qui revient. Et le fait que le Saint-Esprit va convaincre le monde de jugement. Et pourquoi, nous dit verset 11? Parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, il y a un lien entre le fait que le prince de ce monde, qui est Satan, qui est le diable. Dans l'évangile de Jean, l'expression « prince de ce monde » revient à quelques reprises et fait référence au diable ou à Satan. Il y a un lien entre le fait que le prince de ce monde ou le diable est jugé et le monde qui va être jugé, comme on peut le voir dans le verset 12-31. Voici le jugement du monde et le prince du diable sera jeté dehors. Et maintenant, ici, on nous dit « le Saint-Esprit convaincra le monde de jugement ». Pourquoi? Parce que le prince de ce monde est jugé. Si un est jugé, l'autre aussi va être jugé. Parce que les deux, il y en a un qui fait juste suivre le prince du monde. Les gens qui sont dans le monde ne font que suivre ce que le diable a déjà commencé, ce que le diable les incite à faire. Et donc, si lui va être jugé pour son incrédulité et pour son opposition à Dieu, ce sera donc la même chose pour le monde. Ce serait la première manière de comprendre ici ce que ça veut dire, que le Saint-Esprit va convaincre le monde de jugement. Mais il y en a aussi une deuxième, et la deuxième, c'est que, dans un sens, les gens dans le monde qui sont non-croyants et qui s'opposent à Dieu ont toutes sortes de faux jugements, spirituellement parlant. Leur jugement ou leur évaluation des choses ou de la réalité spirituelle est corrompue et tout croche. Jésus dit aux Juifs qu'ils sont les enfants du diable dans Jean chapitre 8 et qu'ils sont menteurs comme le diable qui est le père du mensonge. Mais la croix de Jésus qui s'en vient est le triomphe du prince de ce monde et du diable. Donc le Saint-Esprit va convaincre le monde que ses jugements sont faux au sujet de Jésus et des choses spirituelles. Va convaincre le monde que, moralement parlant, leur évaluation est perverse. Le jugement que les gens non-chrétiens font de la réalité est tout croche. Et le Saint-Esprit va convaincre le monde de jugement parce que le diable est jugé. Lui-même, le diable, pensait pouvoir détruire le Fils de Dieu. Il n'a pas pu, à la croix, Jésus est ressuscité, il a vaincu le diable, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Et donc, un peu la même logique s'appliquerait au monde. Les gens ont besoin d'être convaincus de culpabilité par rapport à leur faux jugement sur la réalité spirituelle, sur Jésus lui-même. Ce qu'ils pensent de Jésus est tout croche et ils ont besoin d'être convaincus de culpabilité qu'ils pensent tout croche. Ils ont besoin de réaliser qu'ils sont coupables de ça. Maintenant, les deux options, dans un sens, aussi feraient du sens. Puis j'ai la même question, pourquoi choisir entre les deux? Est-ce que les deux ne sont pas vrais, en réalité? Puis j'aimerais juste faire une petite parenthèse ici, parce que quand on arrive à des textes comme celui-là, où il y a des choses qu'on a de la misère à interpréter, où on a de la misère à finalement à être assez dogmatique, il y a beaucoup de personnes qui se... dans un sens, là, ce argument pour dire c'est une position ou c'est l'autre position, j'aimerais juste mentionner que ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est parler avec une telle arrogance qu'il faut absolument que le texte dise telle chose puis que toutes les autres sont dans l'erreur puis sont dans le tort. Parce que le texte ne nous permet pas de faire ça. On ne peut pas arriver puis dire il faut que ce soit telle position puis toutes les autres ne sont pas correctes. Souvent, on veut faire ça sous prétexte que la Bible nous a été donnée par Dieu pour qu'on puisse la comprendre. Jamais Dieu nous aurait donné ça, puis qu'on ne soit pas capable de comprendre son message. Donc, à quelque part, il faut qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça dit. Mais de dire ça, ça serait agir, selon moi, avec une arrogance trop grande qu'on ne peut pas avoir, parce qu'il y a tellement de passages dans les Écritures où il y a un mystère qui demeure. Il y en a tellement. Faites juste prendre la double nature de Jésus-Christ, le fait qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Personne ne peut expliquer ce miracle-là ou ce mystère-là. Mais souvent, on a un malaise avec les mystères. On ne veut pas accepter qu'il y a un mystère. On voudrait résoudre le mystère. Et là, on va vouloir essayer d'expliquer les choses mystérieuses en voulant prendre des positions dogmatiques ou trop rigides, alors que la Bible ne nous le permet pas. Et souvent, ça va nous causer qu'on va faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Et donc, c'est juste une mise en garde avec quelle attitude on devrait approcher ces textes-là. Et une mise en garde, puis une exhortation à l'humilité, finalement. Une exhortation à réaliser que nous ne sommes pas Dieu et nous n'avons pas inspiré les Écritures. Dieu les a révélées, Dieu les a inspirées. Elles viennent de lui, elles sont vraies et on n'a pas besoin de tout comprendre pour comprendre que c'est la parole de Dieu et que c'est Dieu qui nous parle par ces Écritures-là. Maintenant, fermons la parenthèse. J'aimerais, juste avant de passer à l'autre point, donner quelques applications de qu'est-ce que ça veut dire. La première chose qu'on a vue jusqu'à date, si vous vous en souvenez, c'est que Jésus, parce que ses disciples étaient tristes, a dit, soyez pas trop tristes, c'est plus avantageux que le Saint-Esprit vienne, parce qu'il va vous convaincre, il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et ensuite de ça, on va lire plus tard qu'il va vous conduire dans toute la vérité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça signifie, en fait, le fait que... Est-ce que ça a comme une incidence dans nos vies? Est-ce que c'est important de savoir ça? De savoir que le Saint-Esprit va convaincre le monde de péché, de justice, puis de jugement? Bien, en réalité, si ce que Jésus dit est vrai, cela signifie que le Saint-Esprit est à l'œuvre, même ce matin. j'aimerais qu'on puisse se tourner vers une application un peu plus personnelle. Plusieurs d'entre vous ici ce matin, peut-être, pouvez vous identifier à la catégorie que Jésus dit lorsqu'il dit le monde. Plusieurs d'entre vous, en fait, vous faites partie du monde, de ce monde-là qui s'oppose à Dieu. Plusieurs, peut-être, d'entre vous ce matin, ils sont ici, puis depuis longtemps, vous rejetez l'idée que Jésus est vraiment ce qu'il dit être. Le Fils de Dieu incarné, Dieu fait homme, le Sauveur du monde. Vous rejetez peut-être même l'idée que vous avez besoin d'un Sauveur. Vous refusez de croire à Jésus ou vous repoussez cette idée-là. Mais si ce que Jésus dit est vrai, le Saint-Esprit est certainement en train de travailler dans votre cœur, même ce matin, au même instant que je suis en train de prononcer ces paroles-là. Il tente de te convaincre en ce moment de péché, de justice et de jugement. Qu'est-ce que tu devrais faire? Mon exhortation pour toi ce matin, c'est que tu devrais ne pas résister à la voix du Saint-Esprit. Si Dieu t'a créé et que tu es séparé de lui à cause de ton péché, mais qu'il t'a créé pour que tu sois en relation avec lui, la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est que tu ne résistes pas à la voix du Saint-Esprit qui te parle ce matin, mais que tu reconnaisses que tu es pécheur, que tu reconnaisses que ta justice aux yeux de Dieu n'est pas suffisante, mais que tu as besoin de la justice de Jésus, que tu reconnaisses que ta manière d'évaluer les choses spirituelles est défaillante ou déficiente, puis que tu places ta confiance en Jésus et que tu abandonnes ta manière de voir les choses et même ta manière de vivre. C'est ça la repentance, se détourner de nos idées qu'on se fait sur comment on peut être sauvé. À la place de compter seulement sur Jésus-Christ au lieu de penser que tu peux te sauver par tes propres forces. Compter seulement sur son sacrifice pour que ton péché soit pardonné puis que tu puisses être déclaré juste parce qu'il te donne sa justice. Puis pouvoir éviter le jugement et la condamnation. Si tu es ici ce matin puis tu fais partie de ce monde en opposition à Dieu, je t'invite puis je t'exhorte à répondre au Saint-Esprit qui parle à ton cœur ce matin. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si tu es ici ce matin et tu es un croyant? Tu as en quelque sorte déjà répondu à cet appel-là. La Bible nous dit que tu es devenu un enfant de Dieu. À tous ceux qui ont reçu la parole, la lumière, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tu ne fais plus partie du monde. On lit ça dans Jean 1,12, mais maintenant, tu es un enfant de Dieu. Je pense qu'une des applications possibles, c'est que ça devrait nous amener à réfléchir sur comment on témoigne. Il y a deux, en tant que chrétien, deux extrêmes qu'on peut avoir ou vivre lorsqu'on témoigne de Jésus-Christ, lorsqu'on parle de notre foi. Une des extrêmes, c'est de penser que tout dépend de nous. C'est de penser que finalement, on témoigne comme si, pour convaincre les gens de leur culpabilité, ça dépend tout de ce qu'on va dire. Puis il faut qu'on dise exactement les bonnes affaires, puis il faut que ça soit bien timé, puis ainsi de suite. Puis dans le fond, ça dépend aussi de notre piété. Est-ce qu'on a comme confessé nos péchés avant d'aller témoigner ou des choses comme ça? Puis si tous les bons éléments sont ensemble, de notre côté, c'est sûr Dieu va agir, c'est sûr les gens vont devenir chrétiens ou vont être convaincus par le Saint-Esprit. Puis dans un sens, je pense que c'est pas une bonne façon de penser, parce qu'on vient de lire le texte, que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Puis d'agir comme ça, ça peut nous amener à faire trois choses. Soit constamment condamner les gens parce qu'ils sont méchants ou qu'ils font des choses méchantes, puis là on essaie de les convaincre de ça, puis on les condamne constamment à chaque fois qu'on les voit. Ou ça peut nous amener à se décourager nous-mêmes si les gens ne deviennent pas convaincus selon les attentes que nous, on s'est créées, parce qu'on pense que tout dépend de nous. Ou la troisième chose, c'est qu'on peut finir par se remettre en question nous-mêmes et se dire, si le monde n'est pas convaincu, c'est peut-être de ma faute finalement. Puis éprouver de la culpabilité à cause de ça. Ça, c'est un extrême à éviter, c'est certain. Par contre, il y a un autre extrême, je pense, qu'il faut tout autant éviter, et c'est que de penser que nous voulons, que dans le fond, on n'a peut-être même pas besoin d'évangéliser ou de témoigner de Jésus ou si on témoigne de Jésus, on n'a pas besoin de penser à vraiment si on le fait bien ou pas, de bien le faire ou non. Parce que dans le fond, le texte nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Fait que dans un sens, pourquoi je témoignerais de Jésus? OK, à la limite, je vais le faire parce qu'il y a certains passages de la Bible là, qui me disent qu'il faut que je le fasse. Mais tu sais, pourquoi je me soucierais de bien le faire? Pourquoi je me soucierais de dire les bonnes paroles ou d'apprendre l'Évangile, là, un plan de l'Évangile pour être capable de le communiquer clairement aux gens? Tu sais, pourquoi faire ça? C'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais ça, c'est aussi une autre extrême à éviter parce que ça fait fi ou ça fait qu'on ignore plusieurs textes des Écritures où on est exhorté à prêcher la parole, où on est exhorté à témoigner de Jésus. Même Jésus, dans Actes 1:8, dit « Vous serez mes témoins ». Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est la puissance de Dieu, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'à aux extrémités de la terre. Fait que c'est pas parce que le Saint-Esprit descend sur eux que maintenant ils disent « Oh, plus besoin de parler, le Saint-Esprit est là, il va tout convaincre tout le monde ». Non, c'est dans le même verset, Jésus dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins ». Fait que les deux extrêmes, il faut les éviter. Mais il faut quand même qu'on réalise que c'est Dieu qui fait l'œuvre, qui fait le travail. Mais Dieu a décrété, il a choisi de le faire par des personnes comme moi et toi qui témoignent de leur Seigneur autour d'eux. Donc, non seulement le Saint-Esprit va convaincre le monde de sa culpabilité pour qu'il vienne à Jésus dans la foi et la repentance, mais en plus, le texte nous dit qu'il va agir envers les disciples de Jésus pour les conduire dans toute la vérité. Tu vois, c'est l'action du Saint-Esprit qui est non seulement envers le monde, il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, mais maintenant, à partir du verset 12, on lit que le Saint-Esprit va avoir une action ou va faire une œuvre quelconque, mais envers les disciples de Jésus maintenant. Et cette action-là, ça va être de les conduire dans toute la vérité. Et on va passer un petit peu moins de temps ici, parce que le texte est un petit peu moins compliqué. Mais le texte nous dit quand même que le Consolateur conduira les disciples dans toute la vérité au verset 12. Jésus a encore beaucoup de choses à dire à ses disciples, mais ils ne peuvent pas les comprendre maintenant. C'est un peu comme quand Jésus au verset 5 dit « Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et nul de vous ne me demande où vas-tu » et au verset 6 « Mais parce que je vous ai parlé, ainsi la tristesse a rempli votre cœur. » Donc, c'est au verset 4. Jésus, au verset 4, dit « Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement, parce que j'étais avec vous. » Les disciples n'auraient pas compris si Jésus, au début de son ministère, aurait commencé à dire « Hey, les gars, je m'en vais mourir, vous ne me verrez plus. » Ils sont au début du ministère, ils auraient nullement compris. De la même manière, ici, Jésus dit à ses disciples, « J'ai encore bien des choses à vous dire, mais ce n'est pas encore le moment. Parce que si je vous les disais maintenant, vous auriez beaucoup de difficultés à les comprendre. Mais le Consolateur, l'Esprit de vérité, conduira les disciples dans toute la vérité. » C'est ce que Jésus leur dit. Il va les conduire dans toute la vérité. Les paroles du Consolateur, premièrement, ne viendront pas de lui-même, mais le Consolateur parlera de tout ce qu'il aura entendu. Le Consolateur annoncera aux disciples aussi les choses à venir. Donc, ce que Jésus dit aux disciples, c'est que vous n'allez pas être tout seul dans tout ça. Oui, le Saint-Esprit va convaincre le monde, mais moi, je vais envoyer mon esprit, puis lorsqu'il sera venu, il va vous conduire dans toute la vérité. Mais cette vérité-là, ce n'est pas comme une nouvelle vérité que vous n'aurez nécessairement jamais entendue. Certainement, dans les choses à venir, il y a des choses là-dedans que les disciples ne connaissaient pas encore. C'est pour ça que c'est des choses à venir. Le Saint-Esprit était pour leur annoncer ces choses-là. Mais au niveau de l'enseignement de Jésus, ce n'est pas des nouvelles choses, parce que Jésus lui-même dit « Le Consolateur parlera de tout ce qu'il aura entendu, il ne parlera pas de lui-même. » Donc, pour amplifier le ministère de Jésus à travers les disciples, le Consolateur fait deux choses. Convaincre le monde de sa culpabilité et deuxièmement, conduire les disciples dans toute la vérité. Et enfin, on nous dit pourquoi le Consolateur fait tout cela. Et c'est au verset 14 où Jésus nous dit que l'objectif du Saint-Esprit de faire cela, de convaincre le monde et de conduire les disciples, est de glorifier Jésus-Christ. On lit au verset 14, « Le Consolateur glorifiera Jésus. Il me glorifiera car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Il va prendre de ce qui est à Jésus, il va l'annoncer aux disciples. Donc on voit que ce n'est pas juste une nouvelle révélation, quelque chose que Jésus qui n'était jamais dans la pensée de Jésus d'enseigner à ses disciples, mais il va prendre de ce qui est à Jésus puis il va l'annoncer aux disciples. Et Jésus mentionne au verset 15 quelque chose d'intéressant. Il dit « Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Vous voyez, le Saint-Esprit, lorsqu'il va annoncer aux disciples et guider les disciples dans toute la vérité, ça ne sera pas quelque chose qui va être en opposition à ce que Jésus avait enseigné, qu'on retrouve dans les évangiles pendant qu'il était sur terre, mais ça ne sera pas en opposition non plus à ce que le Père a enseigné ou a demandé à Jésus d'enseigner. Parce que Jésus dit « Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc, il n'y a pas d'opposition ici entre l'œuvre ou l'action du Saint-Esprit. Certains vont penser, à partir de ce texte-là, que le Saint-Esprit va amener comme des nouvelles connaissances ou des nouvelles révélations qui sont à l'extérieur de la Bible, des choses nouvelles que la Bible ne nous parle pas. Mais ici, on comprend que ce n'est pas le cas. Tout ce que le Père a est à Jésus. Et ce que le Saint-Esprit va annoncer aux disciples, c'est ce qu'il va avoir pris, ce qui va être à Jésus. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et donc, quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, « Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Vous voyez, le Saint-Esprit, son rôle, ça va être d'aider les disciples à enseigner, à comprendre davantage la vérité, tout ce que Jésus a prescrit et de l'annoncer aux disciples pour qu'eux-mêmes puissent en faire l'annonce à ceux qui les entourent. Puis c'est justement là où on conclut ce matin, parce que Jésus nous appelle non seulement à comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit fait, comprendre son œuvre, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il fait, comme on l'a vu dans ce texte-ci. Mais Jésus nous appelle aussi à se joindre au Saint-Esprit pour glorifier Jésus. Le texte nous dit au verset 14, « Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et donc, Jésus nous appelle à se joindre, à glorifier Jésus, à faire de Jésus la personne la plus unique, ou pas en faire la personne la plus unique, mais la faire paraître comme ça, c'est-à-dire élever Jésus pour montrer à tous comment précieux il est, comment saint il est, comment puissant, que c'est le seul sauveur, de l'honorer, de glorifier, de l'adorer pour ce qu'il est vraiment, le sauveur du monde. C'est ce que Jésus nous appelle à faire, à se joindre au Saint-Esprit. Et la manière de faire ça, c'est de se laisser convaincre par le Saint-Esprit. Et c'est de se laisser conduire par l'Esprit de vérité, afin d'être nous aussi des témoins de la vérité. Afin qu'on puisse glorifier Jésus, non seulement par ce qu'on dit, mais par notre vie, par notre obéissance à la vérité, puis par notre soumission à sa volonté. Et ce matin, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Et il y a un lien qu'il faut faire entre le repas du Seigneur et le message qu'on vient de voir ce matin. Vous savez que le discours d'adieu de Jésus a été donné alors que Jésus prenait le repas du Seigneur avec ses disciples. C'est à ce moment-là que Jésus a institué ce mémorial-là, le mémorial de prendre un morceau de pain puis de boire une coupe de vin. Pour nous, c'est une coupe de jus de raisin aujourd'hui. C'est à ce moment-là que Jésus a invité les disciples à faire ce mémorial-là pour se souvenir de lui. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, on nous dit qu'à chaque fois qu'on prend le mémorial du repas du Seigneur, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.